Steve, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque.
À Conduite Antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite Antisportive, mardi et jeudi de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Votre animateur, Patrick Couture.
Quelle place occupe l'autre dans l'écriture? Cela dépend de ce qu'on écrit, me direz-vous. Dans une lettre, par exemple, l'autre est le destinataire, cette figure bien définie à laquelle s'adresse le texte. Mais les récits, les romans et les poèmes, s'ils n'ont pas toujours de destinataire précis, sont également faits pour être lus par d'autres. En fait, je me demande même si cela existe, n'écrire que pour soi. C'était pourtant l'intention des cahiers que je rédige depuis plus de 6 ans. Ils ne sont destinés à être lus que par moi. Toutefois, quand je retombe sur un vieux passage, j'ai l'impression qu'il s'adresse à un autre, car je ne suis plus la personne qui avait dessiné les mots que je lis. Le moi qui écrit dans ces cahiers au présent parle donc à un autre, le moi toujours changeant du futur. Cette forme limite d'altérité montre bien qu'au cœur de chaque démarche d'écriture, il y a l'autre.
McPherson family, please leave a message. Thank you.
Hi, Mom and Dad. It's me, Christine. It's the name you gave me. It's a good one. Dad, this is more for Mom. Hey, Mom. Did you feel emotional the first time that you drove in Sacramento? I did, and I wanted to tell you, but we weren't really talking when it happened. All those Bens I've known my whole life, and stores, and the whole thing. Tell you. I love you. Thank you. Thank you.
On entendait donc un extrait du film Lady Bird, un film paru en 2017 de la réalisatrice Greta Gerwig. C'est un magnifique moment où la protagoniste s'adresse dans un message vocal à ses parents. Cet extrait qui débute l'épisode d'aujourd'hui du Cabaret du Crachoir au sujet de l'écriture adressée à l'autre. Eh bien, cet extrait est une suggestion de notre co-animatrice du jour, Eve Nadeau. Bonjour, Eve.
Allô.
Il faut souligner que Eve est animatrice ici même à Chiz de l'émission 10 entre nous, qui est diffusée un dimanche sur deux. C'est bien bien ça?
Exact,
oui. Oui, et elle est également autrice, donc l'autre fait grandement partie de sa démarche d'écriture. Je pense qu'on va pouvoir en parler plus amplement aujourd'hui, mais avant, j'aimerais comprendre pourquoi cette suggestion. Ben, je le comprends, mais j'aimerais que tu me l'expliques en ondes.
Oui, ben c'est ça. Ben, déjà, je pensais juste à l'adresse dans les messages vocaux. T'sais, on est habitué, dès qu'on laisse un message vocal, on s'adresse à quelqu'un d'autre. On a un message à laisser, c'est ce message vocaux. Mais souvent, ils sont très formels du style, mettons, ce message et pour madame, mettons, Nado, je vous appelle pour vous dire blablabla. Mais, mettons, dans le cas de cet extrait-là, Daily Bird, c'est un message quand même très, je dirais, littéraire, un long monologue qui ferait un bon début de lettre ou de correspondance, tout simplement, je trouve, d'un récit. Mais ça, on l'imagine bien se placer dans un texte, tout simplement. Et je trouve que c'est beau, il y a sa nostalgie de Sacramento, elle s'adresse à sa mère quand même, elle lui demande comment toi tu t'es sentie, est-ce que tu t'es sentie comme ça quand toi t'as conduit pour la première fois-là? Puis on sent que c'est pas juste un message pratico-patrique,
c'est moi ça!
Pratico-patrique! Ah, c'est beau, j'adore! Je vais le garder, ça! Mais vraiment, ça, c'est pas juste un discours à soumettre à autrui, mais vraiment un lieu d'expression du « je ». Je trouve qu'on entend... Je trouve que Lady Bird, elle parle, puis le « je », il est vraiment en train de se construire dans son adresse à l'autre. Il y a comme cette tension-là entre le « je » et le « tu ». Puis en même temps, le « je » et le « tu », on voit qu'ils sont inextricables dans cet extrait-là. Puis je pense qu'on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Hein, je me disais, pour débuter, là, ben, c'est ça. Voilà,
oui, effectivement,
ça, c'était parfait.
Ça met merveilleusement bien la table pour les discussions que nous aurons avec nos deux invités du jour. D'abord, Geneviève Garrier-Py, qui est candidate à la maîtrise en lettres à l'UQAC et autrice. Elle a publié les textes H3Y2Z1 dans le numéro 58 de l'écrit primal, Le corps sans nom dans le numéro 7 d'En marge et Bella Ciao dans un zine auto-édité par le collectif Arsoudance. Quel beau nom! Un autre texte paraîtra sous peu dans le prochain numéro du zine du collectif Le Lac à Calais. Le texte qu'elle nous lira aujourd'hui est inédit. Bonjour Geneviève.
Allô Patrick.
Bien content de te recevoir. Et nous serons également aujourd'hui avec Laurence Dubuc, qui est candidate à la maîtrise en études littéraires à l'Université Laval, autrice, BDiste et artiste. Elle a fait paraître un zine de bande dessinée auto-édité intitulé « La Conso ». On peut également lire son texte « Quand le party est fini » dans le numéro d'automne 2022 de la revue Le Pied et « J'avais dit oui » ainsi qu'un « Jeudi à la Barry » dans le numéro 50, les numéros 57 et 58 de l'écrit primal. Elle publiera bientôt au crachoir de Flaubert une nouvelle intitulée « Jamais à l'abri de la vie ». Ce matin, Laurence nous fera également découvrir une création inédite. Bonjour Laurence.
Allô la gang.
Bonjour. Mais mes présentations, ça sonne toujours très officiel.
Mais donc, c'est beau travail, Patrick.
Merci. Je pense que quand j'ai rencontré ta cousine, Eve, elle disait qu'elle avait l'impression que j'étais un petit monsieur à cravate.
Ah, c'est pour ça.
C'est pour les présentations. Ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, au cabaret du crachoir, comme je disais, l'écriture de l'autre ou l'autre dans l'écriture, on verra bien où ça va nous mener. Et d'ailleurs, je pense que la question à se poser d'entrée de jeu, c'est quelle est la place de l'autre dans vos écritures, vos pratiques littéraires respectives? Peut-être Geneviève d'abord.
Oui, la démarche là, que je suis pour mon projet de maîtrise que je fais actuellement, c'est une démarche qui fait vraiment beaucoup de place à l'autre parce que ça l'a démarré dans un moment où est-ce que c'était plus possible pour moi d'écrire au je sans écrire au tu. Fait que le tu est devenu la condition nécessaire de l'apparition du je dans l'écriture. Fait que c'est un mécanisme super important dans le texte.
Et on aura un bel exemple sous très peu. De ton côté, Laurence?
De mon côté, la deuxième personne prend aussi beaucoup de place. J'ai envie souvent de lui rendre hommage, car le tu est gentil. Et puis je désire aussi vraiment comme comprendre les autres et à travers comprendre la compréhension des autres, me comprendre également. Je fais beaucoup dans l'autofiction, l'écriture de soi. C'est pas nécessairement des visées égocentriques, c'est plutôt en me comprenant moi, j'ai envie que les autres se comprennent. Mm-hmm. Donc j'ai envie que l'intime devienne plutôt universel. Donc, c'est plutôt ça mon rapport avec le dessus.
Peut-être des rêves, ce serait quand même important de t'entendre sur la place de l'autre.
Non, moi, je réponds pas. Je réponds pas à ça. Non, pour de vrai, moi aussi, je suis très dans l'écriture de soi, mais aussi ce qu'on appelle, tu sais, ben, l'écriture de l'autre, l'écriture des autres. L'autre a une très grande place dans mon écriture, puis comme, mettons, dans le cadre de ma maîtrise, juste mes textes en général, tu sais, l'autre, c'est la personne aussi. J'écris beaucoup sur ma mère, tu sais, mon projet de création pour ma maîtrise porte sur ma mère, mais aussi l'autre est souvent juste une œuvre quelconque. T'sais, je parle beaucoup de cinéma dans mon texte. Fait que, t'sais, l'autre va au-delà, mettons, des personnes. Ouais, voilà.
Ben, génial. On va pouvoir explorer tout ça à travers vos textes. On va commencer avec celui de Geneviève, intitulé « Prends ton bout ». Alors, on te laisse la place, Geneviève. Tu peux nous pitcher ton ta création. C'est parti.
Notre histoire où s'en mêle flirt, rupture, amour, amitié et dépression est toute petite. Elle ressemble à mille autres, et mon silence est chargé d'écho quand, au téléphone, je suis l'oreille qui s'ouvre pour recueillir les pleurs dans ta voix. C'est une histoire familière, quelque part dans l'étonnement de tes amis garçons quand j'évoque à demi-mot ta maladie. Leurs yeux s'ouvrent tout grands, ils ne savent pas de quoi je parle. Tes meilleurs amis, avec qui tu as habité, qui ont été témoins dans une proximité physique quotidienne de tes moments les plus critiques. Ce n'est pas de leur faute ou de la tienne, et c'est de votre faute à tous, à l'amitié masculine, à ce qui vous lie et à ce qui vous sépare, à vos choix, à votre enfance et aux façons dont on vous a appris à être des amis. Ils s'étonnent en découvrant l'envers de ce qui s'est joué tout à côté d'eux. Vous vous connaissez intimement pourtant, et vous avez cette belle façon de communiquer presque sans mots, en échangeant des œuvres, en penchant un peu la tête quand vous entendez une phrase qui vous touche, en vous regardant en plein dans les yeux, brièvement, pour dire merci ou je t'aime. Ils savaient sans doute que tu voulais mourir, à certains signes qui, dans ce langage étrange, avaient toute la clarté d'un aveu. Mais c'est à ta mère et à moi que tu as exposé en détail ton plan de suicide, l'élan que tu prendrais dans la pente légère du champ près de la route, le nez égratigné de ton vieux station qui piquerait vers les cimes enchevêtrées de la forêt en contrebas. Le tragique de ta souffrance a fait apparaître des lignes particulières, floues et mouvantes, dans ton entourage, et nous nous sommes retrouvés, elle et moi, du côté de celles qui ne peuvent pas ne pas savoir, de celles qui, pour prendre soin, peut-être par amour, accusent sans broncher des coups qui les détruisent. Elle, bien plus que moi, je pense, a vu le plus sombre de ce qui te dévorait. Les mères ont l'ingrat privilège de recevoir le plus intime, le plus pur et le plus violent de leurs enfants. Elles sont à la frontière de nous-mêmes, si près que nous ne savons pas bien où nous finissons et où elles commencent, avec leurs désirs, leurs traumas, leurs peurs, leurs souffrances. Plus tard, les amoureuses, les filles aînées, les amies prennent le relais des mères, comme si c'était écrit dans leur chair. C'est lui qui évolue en tant que femme, en plus de torcher les corps, de frotter les toilettes, de changer les couches, de s'inquiéter pour l'avenir de leurs proches et de l'univers, ramasse tous les déchets émotionnels. Elles tiennent le monde sur leurs épaules, toutes seules. Elles tiennent les messieurs qui se sentent puissants et indépendants. Les femmes racisées et les femmes pauvres tiennent les femmes blanches riches qui poursuivent une carrière. Les femmes trans noires subissent la pression à l'endroit précis où les droits humains se fondent dans le flou, deviennent sujets à débat, commencent leur recul. Ce front qu'elles tiennent, auquel elles sont acculées, est l'endroit même où les droits naissent et meurent, et les droits qui n'existent pas jusque sur ce front-là ne sont pas des droits, ce sont des privilèges. Et ces femmes-là, toutes celles qui sont le plus loin des hommes blancs, sur la limite même où on cesse de traiter les gens comme des êtres humains, ce sont elles qu'il faut écouter, parce que ce sont elles qui savent qui nous sommes vraiment, ce en quoi nous croyons et à quelles conditions, qui savent ce qu'il faut faire pour fabriquer un monde qui a du sens, dans lequel nous comprenons ce que veut dire vie, ce que veut dire conscience, ce que veut dire respect. Ce sont elles qui font ce travail à chaque jour. Tout le poids de la souffrance du monde est concentré sur ces épaules-là. Et tandis que pèse cette pression, pèse aussi l'oppression qui leur crache au visage et les réduit au silence. Tu m'as demandé un soir, dans l'obscurité d'une tente, ce que voulait dire féminisme. À ce moment-là, j'ai balbutié quelque chose sur l'expérience d'être femme. Sans répondre, tu as caressé ma main et tu t'es endormie. Je révise ma réponse à mesure que je découvre, imbriqué dans notre histoire minuscule, écrit en moi et vibrant dans chaque conversation, dans chaque texte de loi, dans chaque mort, le monumental fuck-up de l'oppression. Aujourd'hui, je te dirais que le féminisme, c'est le constat que les femmes se brisent à chaque instant sous le poids du monde. Ou plutôt, l'endroit où ce constat croise l'idée très simple qu'il n'y a rien dans quelque définition de la féminité que ce soit, rien dans leur corps, dans leurs gènes ou dans leurs neurones qui ne rendent les femmes plus aptes à subir cette pression. Rien dans l'origine ethnique, l'expression de genre, la pauvreté ou la transidentité qui n'explique ni ne justifie une telle responsabilité, un tel déséquilibre dans la répartition du poids du monde. Ce croisement-là, c'est la pouponnière de colère d'où vient l'appel des féministes. Ouvre tes yeux, écoute, regarde tout le travail qu'il y a, regarde c'est qui le fait. Remarque que celle qui porte le plus de poids, c'est aussi celle qui subit le plus de violence. Ouvre tes yeux, viens nous rejoindre, puis prends ton bout. Mais cet appel-là ne résonne que lorsqu'on le porte en soi, qu'il accompagne nos gestes et nos pensées, sans cesse renouvelés. Que si on écoute pour entendre d'où il vient et qu'on y va prendre notre bout, là où on nous le demande, là où c'est en train de lâcher, c'est là qu'il faut aller. Toujours et sans jamais oublier que nos intérêts sont les mêmes, tous les mêmes. Réfugiés, femmes, blancs, japonais, cis, hommes, sans-papiers, travailleuses du sexe, trans, milliardaires, hétéros, non-binaires, Donald Trump, baleines, Paul Preciado, chiens. Que c'est la peur et le déni qui nous empêchent d'accéder les unes aux autres et qui nous enferment dans la violence. Que c'est dans l'écume même des marges que se trouvent les bonnes questions à défaut de réponses.
Nous écoutions donc le texte de Geneviève Gariepi, Prends ton bout, très, très beau titre d'ailleurs. Merci beaucoup Geneviève pour ta lecture et j'ai envie d'entendre à l'instant ce qu'en a passé Laurence, notre autre invitée du jour.
Oui, donc très bon texte Geneviève, merci infiniment. En fait, ton texte m'a fait réfléchir à la part de care, la part de caring dans nos deux textes, en fait. Mm-hmm. Donc, je pense que tu as réussi ton coup en insistant sur ce thème-là. Et puis, ça me fait penser, surtout cette phrase-là, j'ai bien aimé cet extrait. « Celles qui évoluent en tant que femmes reçoivent le poids écrasant de la souffrance du monde entier, en plus de torcher les corps, de frotter les toilettes, de changer les couches, de s'inquiéter pour l'avenir de leurs proches et de l'univers. Elles ramassent tous les déchets émotionnels. » Ben, je trouve qu'avec nos textes, c'est comme si on ramassait les déchets émotionnels puis on sortait les poubelles. Là, donc, encore une fois, en sortant les déchets, on essaye de faire attention de ne pas blesser personne. Mm-hmm. Donc,
on continue à prendre soin.
C'est ça. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ton texte.
Mm-hmm. Merci, Laurence.
Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là de care, j'imagine?
Oui,
j'entends
absolument.
Que d'accord.
Oui. C'est un thème important. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment invisible, là, le travail à monsieur. Ben, qui a plus tendance à être invisibilisé, le travail émotionnel qui est fait. Puis, je pense que quand tu as une socialisation genrée féminine, tu le vois, tu prends soin de tes amis, tu prends soin des hommes dans ta vie vraiment beaucoup, puis de leurs émotions.
Et ça va en opposition avec une certaine vision de la littérature, hein, comme un rentre-dedans, comme une littérature qui doit choquer. Donc, c'est cette idée d'avoir, lors de la création littéraire, cette pensée pour l'autre, pour faire attention à l'autre, c'est ça le care. C'est beau, mais c'est ça, ça renverse quand même certains paradigmes, certaines visions qu'on a de la littérature, je crois.
C'est drôle, ça faisait longtemps que j'avais pensé à la littérature comme quelque chose qui doit choquer nécessairement. Mm-hmm. Pour moi, c'est comme devenu quelque chose de caring dans mm-hmm. les dernières années, je pense, écrire.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, et parfois, je pense que le care passe par choquer. Parfois, la meilleure façon de faire attention à l'autre, c'est de le brusquer un peu, gentiment, poliment.
Moi, ça fait penser, dans mon projet de maîtrise, là, j'avais écrit un roman choc, tu sais, comme Patrick, j'étudie la littérature beat. Donc, j'étais vraiment
dans cette vision-là. Puis en le relisant, je me suis dit, j'ai comme relis, puis je me retrouvais pas. En fait, je suis quelqu'un d'en quand même attentionné, comme de quand même gentil, I guess. Fait que je relisais ça, puis j'essaye de, en fait, dans mon dernier jet de roman, c'est ça que je vais porter une attention particulière à remettre la partie de care, là. Donc.
De ton côté, Eve, je sais que c'est un texte qui a éveillé beaucoup de choses chez toi, de ce que tu parlais avant l'émission, que j'ai le goût de t'entendre aussi.
Ouais, ben ça me fait penser. Moi, ce que j'ai remarqué dans ton texte, Geneviève, c'est que tu me diras si t'es d'accord, mais je trouvais que le tu, il servait un peu. On dirait que c'est un genre de tremplin qui mène vers, je sais pas, la collectivité, plus de personnes que genre juste, ah, je m'adresse à toi, te voici, mais ça t'amène à parler d'autres personnes. Puis il y a une phrase que j'aime en particulier, là, quand tu dis « Les mères ont l'ingrat privilège de recevoir le plus intime, le plus pur, le plus violent de leurs enfants. » Puis tu parles de la violence, pas la violence, mais la souffrance d'un enfant, mais c'est un tremplin vers celle des autres que tu mentionnes, par exemple, la mère et ta propre souffrance. Puis c'est ça, sans minimiser la place que le tu occupe dans ton récit, c'est ça, je crois qu'on peut dire qu'il est considéré comme un tremplin vers la collectivité, mais puis ça met de l'avant peut-être une altérité, mettons, que tu n'avais peut-être pas envisagé a priori, je sais pas ce que tu en penses.
Oui, mais dans l'ensemble, le projet que je fais en ce moment pour ma maîtrise, il est tout écrit au-dessus. Puis beaucoup collé au jeu aussi. Puis comme je disais avant de commencer à lire, dans ce texte-là, c'est le tu qui m'a permis d'accéder au jeu, là, qui occupait tellement mes pensées que j'arrivais pas à écrire autrement que comme en interpellation. Mm-hmm. Puis. C'est assez collé au jeu au-dessus, en général, le texte. Puis ça, c'est un des extraits, rares extraits qui atteint une collectivité. Puis en même temps, mais l'expérience de la socialisation genrée féminine est vraiment importante dans ma réflexion aussi. Mm-hmm. Puis dans le fait qu'elle est présente, en fait, dans chacune de nos relations. Puis elle est présente dans la façon dont on si ça parle de soins aussi, puis de prendre soin, là, puis tu sais, c'est la façon dont on décide de prendre soin ou on accepte de prendre la responsabilité de la vie de quelqu'un, là, tu sais, puis je trouve que la perspective collective a permis un peu de sortir de la gêne puis de la honte que ça peut provoquer de se laisser un peu disparaître en prenant soin de quelqu'un, là.
Ah, merci.
Oui, et puis effectivement, moi aussi, c'est ce que j'avais noté, cette progression dans ton texte. Surtout que on est dans un texte qui est vraiment l'adresse directe à l'autre dès le début. On ne prend pas le lecteur par la main, là. C'est à lui de définir cet autre avec les quelques éléments, le récit qui se joue entre la narratrice et le narrateur, ou entre, bon, la personne qui écrit la lettre, est-ce qu'on peut assumer que c'est toi?
On peut.
On peut, dans tous les cas. Enfin, mais donc, cette voix qui s'adresse à l'autre, et l'autre, donc, finalement, l'autre, on n'en sait pas beaucoup. D'ailleurs, même on discutait avant l'émission qu'on n'était pas sûr exactement de sa situation. Moi, j'avais assumé que la personne était décédée, finalement, pas tout à fait.
Ah, pas moi. C'est donc, moi, j'avais lu ça, j'étais comme mais je comprends pourquoi, mais c'est ça, c'était comme à définir, on n'est pas trop certain.
Mais en fait, mais la force du texte, je pense réside là-dedans, dans le fait que c'est pas ça qui est important, c'est dans la progression, et donc pour passer, comme tu disais, d'un je à un d'un tu à un je à un nous, finalement. D'ailleurs, le passage que j'avais en tête, c'est la peur et le déni qui nous empêchent d'accéder les unes aux autres et qui nous enferment dans la violence. Donc, il semble avoir l'espoir d'une communion possible entre les êtres vivants qui serait atteignable en outrepassant cette peur et ce déni. Est-ce que vous voyez l'écriture comme quelque chose qui contribue à réduire la peur et le déni? Et si oui, de quelle manière?
Ben oui, je pense que ça peut. Dans le sens que la particularité de nous permettre de se reconnaître vraiment profondément dans des étrangers, des étrangères, de la littérature, je trouve. Puis je pense que de cette façon-là, ça peut nous montrer, nous permettre de voir nos ressemblances avec des personnes qui sont complètement différentes de nous. Puis je pense que ça peut atténuer la peur de mieux se... Ouais, de savoir qu'on peut se reconnaître dans des gens qui, a priori, nous ressemblent pas du tout. Là. Mm. Mm.
Moi, je trouve aussi, je pense que ça peut aider. Par exemple, on dirait que j'ai abandonné l'idée que ça pouvait terminer un processus de réflexion par rapport au passé, je sais pas. Je pensais qu'une fois avoir déposé les mots sur le papier, j'allais avoir eu le dernier mot. Mais non, je pense que vous allez voir dans mon texte, on dirait que je me reprends encore, j'hésite encore. C'est ça, donc c'est ça. Mais je pense que c'est déjà un pas vers l'avant. Puis ça peut... c'est ça, le calmer la confusion, combler, nous sortir du vide un peu, de mettre les mots sur papier.
Mm. Oui, effectivement, je pense à cette question-là par rapport comme on l'a dit, dans la progression, d'en venir à intégrer d'autres figures dans le texte, donc à atteindre cette collectivité-là. Et dans ce mouvement-là, je trouvais qu'il y avait un lien intéressant aussi entre l'écriture et le féminisme, que tu définis ainsi. Je dirais que le féminisme, c'est le constat que les femmes se brisent chaque instant sous le poids du monde, ou plus trop l'endroit où ce constat croise l'idée très simple qu'il n'y a rien dans quelques définitions de la féminité, que ce soit rien dans leur corps, dans leurs gènes ou dans leurs neurones qui ne rendent les femmes plus aptes à subir cette pression. Phrase quand même assez choc. Et puis avant de pousser plus loin, avant de pousser plus loin le lien dont je veux vous parler, j'aimerais vous entendre quand même sur cette définition du féminisme. Qu'est-ce que ça l'évoque chez vous?
Je suis d'accord.
Ben moi, c'est ce que j'ai pensé en lisant ça, c'est que je me suis dit que il y a comme, on dirait dans la phrase que tu as citée, il y a comme une réalisation, je sais pas, d'un genre de sentiment de défaite, on dirait, ou je sais pas, comme tu te rends compte que t'as un poids à que tu portes un poids, que tu subis une pression, mais c'est un sentiment très lourd, mais on dirait que ce sentiment lourd là est important, genre il t'amène justement à vouloir à prendre conscience, à vouloir... T'es comme motivé à vouloir provoquer un changement, puis à vouloir comme t'activer, provoquer, t'éduquer, changer. Ouais, on dirait que j'ai vu ça de même un peu, justement, pour comme aller vers le féminisme. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, moi aussi, mais je pensais aussi, tu sais, quand tantôt je te disais là, que je ressortais surtout le caring, le thème, la thématique du caring de ton texte, ben, tu sais, ça me fait penser que c'était nous, un matin, qui était un peu nerveuses de lire nos textes en ondes, puis c'est ça, c'est encore le poids du monde sur les épaules. Là, donc.
Mais tu vois, je t'ai dit aussi un matin que ça m'avait fait du bien de te parler, puis je trouve que, tu sais, c'est un mélange de lourdeur, puis de... tu sais... Je pense que l'oppression, ça fonctionne aussi en séparant les opprimés, puis que en se reconnaissant les uns les unes dans les autres, on trouve beaucoup de force. Puis en tout cas, moi, c'est clair que tu sais, de pas se sentir seul avec une avec la lourdeur, ben c'est vraiment précieux. Puis ça donne beaucoup de pouvoir, en fait.
Être vulnérable en gang, privilégié, sérieux.
Ouais, puis ben je suis content qu'on est sur ce terrain-là, parce que c'est justement de ça que je voulais parler. On a commencé à le toucher, mais c'est dans le lien entre l'écriture et le féminisme. C'est à mes yeux dans cette tension de la possibilité de parler au nom des autres, par exemple au nom d'une communauté de femmes ou d'une communauté féministe, et de manière semblable en prenant la voix d'un autre ou d'un groupe de gens dans un texte, tout en reconnaissant l'altérité de chaque individu. Et c'est ce que ton texte fait. À plusieurs moments, on mentionne quand même que c'est pas toutes les femmes qui sont pareilles, c'est pas tous les êtres humains qui sont pareils. Et puis il y a plein de moments d'ailleurs où tu fais des énumérations, certains moments où tu fais des énumérations d'altérité, si on veut. Mais donc c'est ça, c'est cette idée de lien, de tension. Je sais pas si vous la ressentez, je sais pas si vous comprenez ce que j'avance en utilisant le terme tension, mais dans quelle mesure on peut s'approprier la voix des autres tout en gardant cette éthique du care dont vous parlez, tout en conservant cette idée de oui, mais même si j'utilise un nous dans mon texte, je parle quand même en mon nom personnel, et ça l'indique des biais.
Ben, c'est vraiment difficile, je trouve, de faire la part des choses. Puis moi, j'ai remarqué que dans les dernières années, J'avais de moins en moins accès au nous ou à créer des personnages, en fait, parce que je me sens vraiment proche de... Tu sais, je me sens pas légitime de parler au nom de quelqu'un d'autre, là. Puis, ouais, je trouve ça vraiment difficile à naviguer cette... parce que c'est, ouais, c'est super intéressant de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, puis en même temps, on dirait que pour moi, c'est de moins en moins accessible. Puis, mais en même temps, je pense que même en restant les pieds dans notre moi, tu sais, on parle beaucoup aux autres, là. Puis je dirais que j'essaie de... Pour moi, l'important, c'est d'essayer de parler aux autres, puis j'aimerais ça aussi que ce que j'écris, ce soit vécu comme une partie d'une conversation, là. C'est qu'il soit, ça soit possible de répondre. Oui.
Génial. L'écriture comme conversation, c'est beau. On va continuer de réfléchir là-dessus. Et puis, on va faire ça en allant vers la pause publicitaire. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3 au crachoir de Flaubert. On parle au cabaret du crachoir de Flaubert. On parle aujourd'hui de l'écriture de l'autre. Et après la pause, c'est Laurence qui va nous lire son texte.
Semaine, la semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Chiz 94.3. Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'allonger seulement sur les ondes de Chiz 94.3. Bonsoir chérie!
Bonsoir!
J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non, non, non. Ah chérie, j'arrive! Qu'on sort pour vous, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Ah oh ben!
Le cabaret du crachoir. Chiz 94.3.
J'ai eu cette idée de t'écrire une lettre. Tant qu'à te parler à longueur de journée. Une lettre qui ira... Je sais pas. On verra. Tu es mort et je ne sais plus vivre. Et je me demande ce que t'avoir accompagné si loin, si longtemps, jusqu'au seuil de la mort, m'aura appris. Tu sais, non. Fuck. Pas ce genre de lettre. Comment te dire toutes ces heures que je passe affalée quelque part à pleurer ma vie? Tu dirais que j'exagère. Que j'exagère toujours. Que tu te fais avoir en croyant littéralement ce que je dis. Il ne faut pas. Et puis, il faut. Dans mes rêves, des fois, tu te décomposes la face à force de brailler de douleur. Tu n'arrives plus à respirer. Tu morves et tu vomis en même temps. Je t'ai vu assez de fois comme ça pour ne jamais oublier ce visage. Cette souffrance invivable. Mais des fois, tu vas bien. Tu es dans un champ quelconque avec ton beau sourire. Tu ris pendant que tu parles et tu as le ventre solide. Tu m'embrasses même. Et c'est doux.
Difficile de reprendre la parole après ce magnifique extrait de La lettre à Benjamin, un livre publié à la Peuplade en 2021, dans lequel l'autrice Laurence Leduc Primo s'adresse à un homme décédé, son partenaire qui s'est donné la mort au début de l'année 2020. La voix que vous entendiez était celle de Laurence Leduc Primo elle-même. C'est tiré d'une vidéo promotionnelle mise en ligne sur Facebook par La Peuplade. Geneviève, c'est toi qui nous as recommandé cet extrait. Merci. Ça m'a permis de découvrir ce texte qui cadre parfaitement avec notre thématique du jour. Je crois d'ailleurs que tu l'étudies dans le cadre de ton mémoire.
Oui, exact. C'est un des deux livres de mon corpus pour la partie théorique du mémoire. Puis je trouve que c'est un livre extrêmement précieux. Puis moi, on me l'a recommandé, là, ma directrice, en lisant une proposition de projet. Puis quand je l'ai lu, j'ai pleuré tout le long. Puis à chaque fois que je le relis, je continue à pleurer tout le long. Puis il y a la place du silence là, que avant le décès de Benjamin, ben la narratrice elle en a pris soin, tu sais, pendant plusieurs années. Puis il y a tout ce silence là qui est brisé dans l'être à Benjamin, je trouve, tranquillement.
Est-ce que c'était un texte avec lequel vous connaissiez ce texte, Laurence, Eve?
Non, j'en avais déjà entendu parler, mais non, je connaissais pas du tout. C'était vraiment émouvant comme extrait, puis la proximité, c'est fou, quelqu'un qui est plus là, mais à qui elle s'adresse, il y a quand même tellement une grande proximité, comme si cette personne-là était drette devant elle. Ça rend ça encore plus dur quand tu te rappelles les conditions. C'est magnifique, ça donne envie de le lire au complet. Là.
Oui, recommandé. Ouais,
merci.
C'est vraiment intéressant, le côté épistolaire et tout. J'ai ciblé quelques passages. Là. Merci pour la belle
découverte.
Ben, c'est ça, hein, le cabaret du crachoir, je le dis souvent, mais on est ici pour faire des découvertes, finalement. On découvre vos plumes, on a découvert celle de Geneviève avant la pause, qui nous a lu son texte « Prends ton bout ». Et c'est maintenant Laurence qui nous fera découvrir sa plume à elle avec le texte « Les seules nouvelles que tu auras de moi car je t'ai bloqué ».
J'adore le titre.
Oui, c'est...
Merci.
On a bien hâte d'entendre la suite. Alors, c'est parti.
Cher B, je n'ai plus la patience de chercher le document qui contient ces mots que j'ai déjà écrits. Ceux que je pourrais écrire les yeux fermés, car les mots juste remontent toujours à la surface. J'avais mis fin à notre relation une première fois, mais certaines personnes s'immiscent dans une vie comme un cours d'eau nous avale. Quand je pense à toi maintenant, je pense à des sables mouvants. Ça peut sembler bas, mais j'ai déjà obtenu ta bénédiction. Quand j'ai trouvé le courage de te laisser pour une deuxième et ultime fois, tu as pris le temps de me dire « Je peux être le méchant dans ton roman, si tu veux. » J'ai longtemps cru que le pire que je pouvais te faire, ce serait de t'effacer complètement de mon récit. Surtout que tu m'as coupé toute envie de te faire exister sur une page. Tout n'est pas de ta faute. Avant toi, il y avait eu le gars qui se retrouvait plus tard sur la liste. Excuse-moi si je digresse. Pour ne pas que tu te sentes trop cheap, j'ai simplement voulu te faire part du fait que tu n'as pas été le seul à m'avoir piétiné. Après avoir réussi à couper les ponts, tu as essayé de me joindre à plusieurs reprises. Pour qu'on devienne amis, as-tu plaidé au téléphone, soit la seule fois où j'ai cédé. On a parlé un peu trop longtemps car je devais étudier, car je voulais pas te parler de prime abord. J'ai réussi à essuyer ton offre d'un refus et ce, même si je ne savais pas, je sais toujours pas comment dire non. Je t'ai dit, c'est peut-être pas une bonne idée, quel euphémisme. Après une demi-heure, j'ai finalement réussi à clore la discussion en proférant « Ok, je vais te bloquer maintenant. Désolée, bye. » Je t'ai croisé par hasard environ 6 mois plus tard. Tandis qu'on prenait nos nouvelles au bar, nos corps se rapprochaient peu à peu, la faute des sables mouvants. Une fois la soirée avancée, reprenant nos mauvais plis, on s'est frenchés dans la ruelle adjacente. Mais je ne voulais pas rentrer avec toi. Don't get me wrong, ça aurait été plaisant, c'est sûr. Mais je te connais. Quand je te tends la main, tu prends mon bras avec. » J'ai vu le lendemain matin que tu m'avais texté, car je t'avais débloqué la veille au soir en riant, sous tes yeux, en m'excusant, en dédramatisant dans tes textos. Tu faisais un appel à la pitié pour que je me rende chez toi à la course. Je t'attendais, t'as dit. Je pensais que tu changerais d'idée, que t'allais venir chez moi, mais non. Tu te souvenais un peu trop bien de ce qui pouvait me faire céder. Mais mes 6 mois loin de toi m'avaient permis de distinguer une technique de manipulation quand j'en voyais une. Je me souviens plus si je me suis excusée avant de te bloquer à nouveau. Non pas que tu sois un mauvais gars, là. À ton meilleur, t'es une personne sensible et attentionnée. Ces derniers temps, j'essaie juste de me défaire de ma tendance au manichéisme et d'apprendre à tolérer les tons de gris. Mais afin de me remettre sur pied, je devais d'abord t'évincer, et ce, pour de bon. Tu sais également te montrer charmant. J'ai ignoré tes red flags avant d'être avec toi. Tu méritais bien une chance. Surtout que je n'étais pas blanche comme neige non plus. En guérissant, j'ai peu à peu appris que mes drapeaux, eux, pouvaient prendre des teintes jaune-orange. Je pouvais pas te forcer à t'aider si tu voulais pas. Sans doute ai-je dépassé tes limites à plusieurs reprises. Mais la violence réactionnelle ne justifiera jamais ta violence. Non, en y repensant, mes drapeaux y étaient jaunes, tout au plus. Mes frères et sœurs m'ont rapporté que quand nous étions encore ensemble, nous répétions sans arrêt des phrases telles que « on est fou », « on est insane » ou des trucs du genre. Peut-être ai-je d'abord préféré plaider la folie et prendre nos querelles à la blague plutôt que de mettre fin à notre union. Je me souviens de la goutte de trop, la fois où je t'ai déposé en voiture le lendemain d'une nuit, dilapidée à entretenir un dialogue de sourds. Tu as claqué la portière en me traitant de crise de folle. La faute de ton impulsivité, sûrement pas de la tienne. La chanson « I forgot that you existed » de Taylor Swift me fait penser à toi. Je sais. Mes goûts musicaux sont nettement inférieurs aux tiens. Elle chante « I forgot that you existed. It isn't love, it isn't hate. It's just indifference. » Ainsi, je n'ai pas branché après avoir confié à une fille que nous formions auparavant un couple, toi et moi, et que celle-ci m'a ri au visage. Clairement, a-t-elle ricané. Il aime encore son autre ex, soit ta première blonde, K. J'ai trouvé la fille franchement impolie, mais je n'ai pas ressenti de tristesse. Cette interaction désagréable m'a juste rappelé une autre interaction désagréable. Le soir où l'on marchait tous les deux dans la rue et qu'une connaissance, le dernier cœur brisé par K, avait fait elle aussi une remarque désobligeante. Tu te souviens-tu? Elle avait ri de ta fure relation avec K, puisque clairement, celle-ci préférait les filles aux garçons. J'ai passé la nuit à te serrer contre moi et à sécher tes larmes. Je comprenais car moi aussi je pleurais encore mon premier amour. Le souvenir de cette nuit représente pour moi la preuve qu'une certaine tendresse est bel et bien passée entre nous. Sache que j'ai chéri l'abri que nous avions construit, du moins quand tu ne te changeais pas en tempête. J'ignore si tu as changé. J'espère que tu ne grimpes plus dans les rideaux comme avant. La dernière fois que je t'ai croisé dans un événement, j'ai été surprise de constater que ce n'était pas moi que tu scrutais, mais mon nouveau chum. Tu l'observais non pas avec de la curiosité, mais avec du dédain. Je le sais, je te connais. Oui, celui qui t'a remplacé porte des t-shirts Puma ironiquement. Mais surtout, il m'apprend depuis des années maintenant que l'amour, le vrai, n'est ni conflictuel ni vindicatif et en aucun cas agressif. De tout mon cœur, je te souhaite la même chose. À ce jour, je me remets encore de mes débarques. Tu comprendras que mon estime de soi n'a pas fleuri comme ça en un claquement de doigts. Mon copain m'aide à panser mes blessures, mais le gros de la job me revient. Je retrouve peu à peu mon intuition. J'aimerais d'ailleurs te partager ce que j'ai découvert à force d'introspection, à force de tisser des liens sains. Je ne suis pas folle, je ne l'ai jamais été. Sans rancune, vraiment, elle...
Nous entendions donc le texte de Laurence Dubuc. Et puis là, ça me prend le titre sous les yeux parce que c'est pas court. C'est les seules nouvelles que tu auras de moi car je t'ai bloqué. Merci beaucoup, Laurence, pour ta lecture. Qu'est-ce qu'en a pensé Geneviève?
Ah, mais c'est très touchant, là. On en parlait tantôt, là, d'arriver au nous collectif et tout. Puis moi, quand j'ai commencé mon projet, je pensais écrire une toute petite histoire qui n'a pas d'importance. Puis d'une part, ça l'est, mais d'autre part, à mesure que le temps passe puis que j'en parle avec des gens, mais je me rends compte qu'on est vraiment plusieurs à connaître ce genre de situation-là puis à avoir ce vécu-là. Puis c'est vraiment, je trouve ça, à chaque fois, je suis vraiment, vraiment touchée, là. Puis ce qui me marque beaucoup, moi, dans ce texte-là, c'est en même temps qu'il y a un retour du jeu, puis en même temps qu'il y a une reprise de contrôle puis une reprise de parole, il y a de la présence quand même de résiduel, là, de doute de soi, là, puis tu le sens que la narratrice, elle en parle, là, qu'elle est déconnectée de son intuition, puis je trouve ça c'est vraiment important parce que c'est ça qui arrive aussi quand tu te donnes à quelqu'un qui prend ou qui a besoin de plus que ce que t'es capable de donner, ben t'es obligé un peu de te réduire au silence toi-même, là, puis c'est normal de perdre la connexion avec son intuition, puis je trouve ça beau comment ça revient dans le texte en même temps quand elle dit « je suis pas folle », tu sais.
Mm. Oui, la finale est assez, assez frappante, là. « Je ne suis pas folle », moi, ça m'a renversée.
Puis,
Oui, est-ce que je... Oui, ça va, je peux y aller. Bon. Allô, Laurence, salut, merci. Salut. Allô, ça va?
Oui,
ah, j'ai vraiment aimé ça. Merci beaucoup pour ta belle lecture. C'était vraiment ressenti. Là, je sentais qu'au fur et à mesure, t'arrivais à la fin, là, puis t'as vraiment pris ton envol dans la lecture. Là. C'était super. Puis ça me fait penser, là... Puis vraiment, je vous invite toutes les deux à répondre. Puis ben Patrick aussi, hein, ouais, dont tout le monde, toute la gang. C'est parce que récemment, petit contexte, j'ai remis un projet d'écriture dans le cadre d'un séminaire. Et c'est la première fois que j'écrivais au-dessus. Mais c'était pas vraiment assumé. J'écrivais la première version de ce texte-là, puis je narrais naturellement au-dessus, mais au fur et à mesure, j'écrivais, puis je le refusais. Je supprimais toutes les marques du dessus, puis je remplaçais ça par un « il ». Je me disais, oh non, le dessus, ça marche pas, ok, je vais mettre le il, ça va être ça. Puis là, le dessus revenait, puis j'étais comme, oh non, puis ça venait, c'est comme j'ai dit, ça venait naturellement. Puis, c'est ça, fait que on dirait que je réfléchis beaucoup ces temps-ci à ce refus-là qui est peut-être dû à une peur que comme je sais pas, que ce texte-là puisse peut-être juste appartenir, n'être livré qu'à une seule personne, le destinataire. Ou, mettons, si je cite un passage de ton texte que j'aime beaucoup, j'ai longtemps cru que le pire que je pouvais te faire serait de t'effacer complètement de mon récit, surtout que tu m'as coupé toute envie de te faire exister sur une page. Puis, je me demandais, est-ce que tu crois que ce malaise-là dont je parle serait dû, comme le sous-entend cet extrait, mettons, à la grande importance qu'on accorde peut-être à cet autre dès qu'on le fait, comme tu le dis si bien, exister sur une page? Je sais pas ce que t'en penses, et toi, Geneviève, Patrick?
Ben, je sais pas si tu te souviens, là, genre dans mon texte, j'écrivais que la personne m'avait donné l'accord d'être le méchant dans mon roman.
Oui, 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 passage fort aussi, là, dès le début, là, ouais.
C'est ça, fait que on dirait que c'était comme m'adresser au-dessus, c'était comme c'est m'adresser à la personne que j'ai croisée pour la dernière fois, puis qui dévisageait en tout cas qui dévisageait mon chum là ou ben
oui, oui,
fait
oui,
que
oui.
C'est comme hey là prends une minute là
oui, oui.
ça aurait été cette on dirait que j'aurais pas en tout cas j'aurais voulu dissimuler sublimer ce truc là en fiction. C'est juste que là c'était comme c'était important pour moi de nuancer cette situation là puis de mettre les mots pour que d'autres personnes puissent se reconnaître dans une situation qui est comme pas claire, tu sais.
Mm-hmm.
J'ai voulu, oui, ça ouais. M'a pris des années. Puis non, la personne méritait pas d'être l'antagoniste dans un roman. Là. Mm. Mais ce petit texte-là, c'est moi qui ai décidé quelle place que la personne prenait.
Oui. Pis... C'est fou, pareil. C'est comme je vais être le méchant de ton histoire. C'est comme ça. Il se dit même pas je vais être le héros, mais je vais être l'antagoniste
ça,
de ton roman.
Pour,
oh, ouais, c'est ça. C'est fou.
C'est
ça.
Puis aussi pour revenir à ce que tu disais à propos de ton projet d'écriture,
ouais.
Où moi aussi dans mon projet de roman de maîtrise, là, j'écrivais au-dessus au départ. Et puis, plus le temps passait, plus le sujet amoureux s'est déplacé, décentré. Et puis, cette personne-là est devenue un « il », tu sais. Puis, finalement, c'est pas juste à propos d'une relation, ce roman-là. Puis, mais c'est intéressant des fois comment la forme se modifie au gré du temps.
Oui, parce que comme on dit, comme on contrôle pas l'écriture, c'est comme là, l'écriture va de soi, puis c'est vraiment, c'est une des premières fois, en tout cas, j'ai oublié les autres fois, mais où j'ai vraiment l'impression d'avoir aucun contrôle sur ce que j'écrivais, puis j'ai trouvé fascinant, c'était terrifiant en même temps, c'est fou, hein?
C'est organique.
Oui.
Ouais.
Mais ça me fait penser, je pense que c'est dans le journal de Julie Delporte qu'elle commence à écrire au-dessus, puis comme c'est à la main, là, c'est comme au crayon de bois, en fait, là, tu vois qu'à un moment donné, elle commence à prendre la résolution de ne plus parler à la deuxième personne, puis de passer au « il ». Puis tu vois qu'elle barre le « tu » au début, puis à un moment donné, ça devient naturel, tu sais, mais tu vois l'espèce de transition, parce qu'il faut qu'elle efface le « tu », parce que c'est naturellement encore ça qui vient, là. Puis, mais moi, je te dirais que le pari que j'ai fait, c'est que le « tu », en fait, il fait partie de moi, au final, tu sais, puis c'est comme une espèce de jeu ou de piège que je me tends à moi-même pour être capable d'écrire. Puis je lui laisse une certaine place, puis en même temps, c'est pas quelqu'un, tu sais, c'est comme... ça fonctionne comme une extension de moi-même qui me permet de... Puis ça permet... En fait, ça permet de guérir, je trouve, aussi.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, il y a tellement de silence dans certaines relations que après il reste tellement de choses à dire, en fait. Puis que c'est normal que quand on a l'occasion d'écrire, puis donc de repousser, en fait, la réponse de l'autre, ben ça sort, tu sais, puis on a des choses à dire, puis on a des choses à dire à cette personne-là qu'on n'a pas eu l'occasion de lui dire avant, tu sais.
Et tu sais, au final, il y a aussi un retour à soi dans tout ça. J'aime bien la phrase de Serge Bouchard, « Je est un autre », puis c'est ce que j'essayais de toucher aussi dans mon texte d'introduction, en prémisse, cette idée que finalement, l'altérité se trouve en nous-mêmes. Mm-hmm. Puis, ben, parfois, le « tu », oui, est là pour incarner quelqu'un qui n'est pas nous, mais au final, on le fait... C'est dans notre monde intérieur que tout ça se passe. Hein? C'est nous qui le recréons. Et d'ailleurs, là, Eve a commencé à en parler, mais j'aime bien l'idée de s'adresser à quelqu'un à qui on ne veut pas parler. Mm-hmm. Parce que ben, j'aime les tensions, comme je le disais tout à l'heure. Avec
Tout est tension.
Puis, ben, je pense que l'écriture, ça passe dans la tension. Et là, celle-là est particulièrement intéressante. J'aimerais voir comment ça peut agir comme un moteur créatif aussi fort, parce que c'est paradoxal. On ne veut pas lui parler et donc on écrit. Comment expliquer ce moteur créatif-là, Laurence?
Ce sera pas long, là. Je réfléchis à tout ça. Eve?
Une des pistes que je pourrais proposer, c'est que j'ai l'impression que quand tu vis... Il y a des relations qui sont, justement, qui te réduisent au silence, là, pour plusieurs raisons différentes, qui peuvent être la violence ou la maladie. Puis ça peut faire que, en fait, c'est pas safe pour toi de parler à cette personne-là directement. Et donc, tu veux pas y parler. Mais mm-hmm. T'as besoin d'un espace où tu peux exprimer certaines choses.
Exact. Mm-hmm. Je pense que c'est comme, c'est imaginaire un peu, là. Tu peux t'imaginer que la personne peut parler en mal de toi, puis tu te dis comme, moi aussi, j'ai droit d'avoir mon propre narratif, et puis de le nuancer comme je veux, puis mais oui, je sais pas si vous vous souvenez dans mon texte, mais je parle de sable mouvant. Mm-hmm. Je pense que c'était plus safe d'écrire plutôt que de parler, d'avoir une discussion, un dialogue de sourds.
Comme l'écriture, le texte comme safe space.
Ouais, 100%. Ouais.
Ben oui, puis dans safe space, il y a le mot espace. Hein. L'écriture, c'est ça, c'est un espace qu'on crée, c'est un espace qui nous appartient, duquel on peut faire ce qu'on veut. C'est ce qui est beau avec cet espace-là. Et puis, ben, puisque l'émission touche malheureusement déjà à sa fin, et on pouvait pas passer à côté de ce sujet-là dans une émission où on parle de l'autre. C'est l'idée de l'empathie qui est très présente dans ton texte, parce que bon, t'écris à une personne pour la critiquer. Le mot est presque un euphémisme, mais ça vient pas sans respect, j'oserais même dire, sans amour, dans une certaine mesure. C'est une grande empathie dont le texte fait preuve. Bon, bien que tu mentionnes que tu as subi des violences de cet autre, et ça m'a touché de parvenir à conserver de l'empathie. C'est un peu le sujet du care dont on parlait avant la pause aussi. Je pense entre autres au moment là, de tout mon cœur, je te souhaite la même chose, un moment dans le texte, je te souhaite que toi aussi tu vives quelque chose de plus beau, de plus positif. Et on sent l'authenticité de ce souhait. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Là. Croyez-vous que nous pouvons écrire à quelqu'un d'autre sans ressentir la moindre empathie pour cette personne? Puis même plus largement, est-ce qu'on peut écrire tout court sans empathie?
Ben moi, je voulais juste dire, je pense qu'au départ, si j'avais écrit dans un temps rapproché, la personne, elle aurait été un antagoniste. Mais avec le temps, tu te rends compte que cette personne-là, c'est pas ex nihilo, elle sort pas de nulle part. Il y a des patterns qui ont provoqué ce genre de comportement, etc. Et puis moi, j'ai décidé que j'avais pas envie de perpétuer cette agressivité là. Puis c'est ça qu'on peut voir, je pense, dans mon texte quand même. Malgré quand même, je suis un peu off.
Oh oui, mais c'est normal aussi.
De mon côté, c'est ça, l'écriture et l'empathie, là. Ah ouais, merci Patrick. Comme je vous disais plus tôt, là, ça pourrait faire un bon épisode juste consacré à ça, là, avec l'empathie. Puis là, c'est ça, peut-on écrire à l'autre sans empathie? Moi, mon écriture est toujours très empathique. Fait que là, je me disais, OK, je vais voir la contrepartie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'il est possible d'écrire sans aucune empathie. Je pense qu'il peut, mettons, on pourrait dire, il peut avoir un intérêt, peut-être une curiosité pour l'autre, mais est-ce qu'il est obligé d'avoir de l'empathie? Mettons, on pense à un discours brut dans la vie de tous les jours, mettons, on peut facilement être méchant ou antipathique, admettons, à l'égard de quelqu'un d'autre. Mais dans un texte littéraire, c'est sûr qu'il y a différents paramètres. Je pensais, par exemple, peut-être à la forme du récit, le ton employé, mettons, l'esthétisation, la poétisation, mettons, du discours, peut-être pourrait nous amener à être
empathique. Mais là, je prenais, là, je vais pas aller trop loin, mais déjà, je prenais juste l'exemple d'un genre littéraire comme, mettons, on prend le pamphlet. Mettons, on prend le pamphlet qui peut être une adresse à l'autre. Mettons, tu veux t'attaquer directement à quelqu'un. Mm-hmm. Puis, je pense qu'on peut facilement l'envisager comme un texte antipathique dans lequel il repose aucune empathie. Fait que là, je me posais toutes ces questions-là, puis là, je me disais, OK. Puis tu vois, en même temps, moi, je pense à ma propre écriture, puis là, je pense au texte que vous avez lu, puis il y a tellement d'empathie, je trouve ça tellement beau. Ouais, Laurence...
Mais moi, ça me fait penser un peu à peut-être à Folle, de Mélie Arcand. Oui. Peut-être que j'ai étudié un peu ça pour ma maîtrise, comme, tu sais, je suis pas spécialiste de la sad girl theory, là, mais, tu sais, on dirait que c'est comme la première étape de caring, c'est de care pour toi-même. Puis, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment tu te sens. Puis peut-être que dans ce temps-là, tu penses moins à pourquoi l'autre personne a fait ça. Mais c'est en soi une démarche, là, je crois, là, de...
Oui, oui, sans nécessairement tout de suite lancer des fleurs, mais juste de réfléchir à l'autre puis vouloir comprendre l'autre, c'est une première étape de l'empathie, mettons, c'est ça?
C'est la deuxième étape.
La deuxième, oui. Attends, la première.
En premier... T'es blessé, tu réfléchis à comment toi tu t'es senti, comme, puis t'es comme tu m'as fait sentir comme ça, tu sais, c'est oui. Folle et t'adresser à la deuxième personne.
C'est vrai, c'est vrai,
pis,
c'est vrai.
Mais tu sais, c'est une démarche en soi de faire ça, mais je pense qu'en deuxième temps, c'est là que tu peux faire preuve d'empathie puis penser à qu'est-ce que t'as fait toi, puis en tout cas, t'es moins blessé.
Ça passe par toi en premier, comme
je lance ça de même.
Ouais.
Mais je pense aussi que quand tu te places dans une démarche d'empathie envers toi-même ou tu sais que t'essaies d'être sincère là, tu sais, puis que en plus t'as accès à un espace sécuritaire ou relativement sécuritaire dans l'écriture, je pense que donc si t'essaies d'avoir de l'empathie envers toi-même, mais t'essaies de pas te réduire à certains de tes actes là, tu sais, t'essaies de te comprendre dans ton entièreté puis dans ta complexité puis de pas te condamner ou te blanchir complètement. Puis je pense que si tu le fais pour toi-même, tu le fais pour l'autre aussi.
Mais c'est des très belles réflexions. On invite les auditeurs à les poursuivre à la maison. Pour le prochain épisode, ben pas le prochain épisode directement, mais pour un prochain épisode où on parlera peut-être de l'écriture et de l'empathie, on prend ta proposition, Eve.
Okay. Merci Patrick.
Pour l'instant, aujourd'hui nous parlions de l'écriture de l'autre avec Geneviève Gariépy, dont vous pouvez lire les textes dans les revues L'Écrit Primal et En Marge, ainsi que dans le zine du collectif Arsoudance. Ne manquez pas la prochaine publication de Laurence dans un autre zine d'un autre collectif, soit celui du Lac à Calais. Ça sort bientôt. Merci Geneviève.
Merci Patrick.
Nous recevions également Laurence Dubuc, qu'on peut lire dans Le Pied, dans L'Écrit Primal et bientôt au Crachoir de Flaubert. Si vous voulez voir son travail de bédéiste, il est possible de vous procurer le zine de bande dessinée qu'elle a auto-édité intitulé La Conso ou de la suivre sur Instagram @laurence.dubuc.dessine.pas.mal.
Laurence Dubuc dessine pas mal.
Ouais, c'est ça.
Avec des points en chaque mot.
Ouais, ben c'est ça. Je connais pas Instagram parce que je suis un vieux monsieur. Merci également à Eve d'être venue co-animer cet épisode.
Merci à toi. Merci à vous.
C'était vraiment fun.
Donc, nous, on se retrouve dans deux semaines, soit le 27 mars. On va recevoir Rémi Lapointe et Héloïse Leblanc pour parler de l'écriture du banal. Nous enregistrerons par contre exceptionnellement ce dimanche et ce sera diffusé en direct. L'heure reste à confirmer. Suivez-nous sur Facebook, vous pourrez voir tout ça. On se laisse sur une autre chanson de Billie Eilish, Happier Than Ever, paru en 2021 sur l'album du même nom. C'est une recommandation de Geneviève, donc on écoute ça à l'instant. À dans deux semaines ou en fin de semaine. Enfin, on se revoit bientôt sur les ondes de Chiz de 94 Toi. Restez là, il y a une autre émission après nous.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do. Thank you.
C'était le cabaret du crachoir avec votre animateur, Patrick Couture.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7 présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Memo, on a une nouvelle mission!
Je suis prêt, Émilie.
Ensemble, on doit sauver le Québec avec...
Écoute locale! Garde à mon arme secrète... La playlist, 100% nouveauté de la ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et les questions qui tuent.
Écoute locale,
les entrevues,
écoute locale, la playlist,
lundi 14h, on sauve la musique
à Chiz 94.3.
I'm not afraid.